vous avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et bonjour Philippe.
Bonjour Léo.
Bonjour à tous. Bon, ce dimanche ensoleillé, c'est la journée idéale pour aller jardiner avec un tout petit peu de fraîcheur. C'est pas mal pour aller au jardin.
Voilà, encore. On peut commencer par aller aux champignons, hein. Oh. C'est pas un souci, on ira au jardin juste après. Ouais. Hein, le petit matin, la fraîche, les champignons, c'est super.
Ah, ça c'est pas mal, avec le petit panier. Ouais. Et voilà. Encore faut-il avoir les bons gestes après pour jardiner, les bons conseils. Heureusement, vous êtes là jusqu'à 10h.
Ouais, pour le niveau d'après, je suis là, voilà, tout à fait.
Pas mal. Ça se presse déjà au 02 99 67 35 35 pour vous poser plein de questions. Philippe, je vous propose qu'on commence à accueillir notre première auditrice.
Allons-y gaiement.
Allons-y. Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
C'est Arlette qui nous a rejoint de Redon. Bonjour Arlette.
Bonjour messieurs.
Alors Arlette, je vous laisse poser votre question à Philippe.
Oui, alors Philippe, je voulais savoir à quel moment il faut couper les têtes des agapanthes, de même que celles des pivoines, qui sont toutes en graines, quoi.
Alors Philippe.
Alors en fait, il y a deux solutions. Soit on coupe la fleur dès qu'elle est fanée et on l'empêche de grainer. Et du coup, ben, on empêche la plante de se fatiguer à faire des graines, parce que vous êtes bien placé pour savoir en tant que femme que c'est pas très facile de faire des enfants. Surtout qu'il y en a plein. Des fois, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Donc, ça tire un petit peu sur l'organisme des plantes. Donc, si on supprime les fleurs dès qu'elles sont fanées, ça évite de fatiguer les plantes. Après, si vous voulez récupérer des graines, ben, vous les laissez aller au bout, mais en fait, le stade intermédiaire de laisser la graine et de la couper verte, eh ben, c'est, vous avez fatigué la plante pour pas grand-chose, en fait. C'est un petit peu dommage. Mais donc, pour répondre directement à votre question, dépêchez-vous de les couper, parce que si vous voulez pas en faire des graines, faut se dépêcher de les
enlever. Elles sont déjà toutes en graines.
Ouais, mais du coup, maintenant, vous pouvez peut-être les laisser mûrir et vous amuser à faire des semis. Ça peut, on arrive à sortir des choses très intéressantes. Hein.
D'accord.
Pas que, mais on arrive à sortir des nouvelles variétés, en fait. Votre variété à vous, née dans votre jardin, et pourquoi pas.
Très long, aussi bien pour les agapanthes que pour les pivoines.
Ah, bah, c'est minimum 5 ou 6 ans avant d'attendre la première floraison, mais après, quel bonheur.
Ah, il y a du bleu partout après, c'est quand même sympa, ça, Arlette.
Oui, bah, écoutez, on va essayer, mais j'en ai mis déjà plusieurs fois, mais je trouve qu'elles ne sortent pas, hein. Les graines.
Ah, c'est pas facile, c'est un métier, semencier, hein. Donc c'est pas toujours facile.
Voilà, Arlette, pour avoir de belles agapanthes, on espère qu'elles vont fleurir, et puis après c'est joli quand ça part partout, les agapanthes, ça fait des couleurs bleues, comme je le disais, bleu-violet un peu, hein, Philippe.
Oh, si ça dépend, ça va du blanc au violet presque noir, c'est une gamme de couleurs absolument magnifique. Il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de hauteurs aussi, hein, donc il y a à la fois les hauteurs, à la fois les bleus différents, et puis même certains feuillages ont des verts plus ou moins intenses.
D'accord.
On arrive à faire vraiment des très jolis effets avec les agapanthes.
Je vous entendais parler de taille, ça peut monter jusqu'à combien les agapanthes ?
Il y a des très hautes qui en fleurs sont pratiquement 1m60, 1m70.
Ah oui.
Donc ça commence à faire, quoi. Oui. Et puis après, il y a des toutes petites, des lilliputiennes qui sont à 20-30 cm en fleurs. Mm. Donc on arrive vraiment à faire des effets de volume tout à fait intéressants et des effets de couleurs aussi passionnants.
Il y en a pour tous les goûts. Philippe, je vous propose qu'on continue. On va accueillir tout de suite Huguette qui est avec nous. Bonjour Huguette.
Bonjour, bonjour Philippe et bonjour les amis. Comment je suis un peu handicapée par la sélection des fruits qui sont trop nombreux sur les fruitiers. Et ma question, c'est à quel stade on peut sélectionner déjà les fruits et pour leur donner toutes les possibilités d'aller jusqu'au bout, quoi.
Oui.
Parce que s'il y en a trop, ça le fait pas.
Éclaircir les arbres fruitiers, en fait.
Oui, tout à fait.
Alors en fait, il faut le faire le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que le fruit est noué, c'est-à-dire que pour une pomme ou une pêche, c'est gros comme une groseille à peine, plus on va le faire tôt, en fait, plus on va éclaircir tôt, Et là encore, c'est une question de fatigue de la plante, et moins la plante va se fatiguer pour alimenter plein de fruits qui, après, risquent de tomber, de ne pas arriver à maturité complète, et donc elle se sera fatiguée, là encore, pour rien. Donc le fait, effectivement, d'éclaircir de très bonne heure le plus tôt possible, on va permettre à la plante de mettre toute son énergie dans le grossissement et la maturation de ses fruits, mais il faut savoir aussi que les fruitiers, ils ont une double peine, si je puis dire. D'un côté, ils sont obligés de faire les fruits, de les faire grossir, de les faire mûrir, et de l'autre côté, en même temps, ils préparent la floraison de l'année suivante. Donc plus on va leur faciliter la tâche en faisant une éclaircie de bonne heure, et plus la production de l'année d'après sera intéressante aussi. Parce que quand ils ont trop de fruits une année, et bien l'année d'après, ils se reposent. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'alternance. Et phénomène-là, avec une éclaircie de très bonne heure, eh bien, on peut le supprimer. Et donc, c'est une très, très bonne question que vous posez, parce que c'est vraiment un acte qu'il faut faire le plus tôt possible.
D'accord.
D'accord.
Ben voilà.
Ben, je vous remercie de tout le conseil. Et puis, continuez vos émissions, ça m'aide.
Ben, écoutez, si ça vous aide à avoir des beaux fruits ensuite, Huguette, on est content quand même.
Tout à fait.
C'est le principe, ça tombe bien.
C'est exactement ça. 02 99 67 35 35. Si vous aussi, vous avez des interrogations à poser aujourd'hui sur le jardin à Philippe. Philippe, on accueille tout de suite Dominique qui est à nos côtés. Bonjour Dominique.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Dominique, expliquez-nous, vous avez des problèmes avec les pêches?
Oui, j'ai des pêches très belles qui, lorsqu'elles arrivent à maturité, présentent une pourriture concentrique et se dessèchent sur l'arbre.
Oh, c'est pas top ça.
Et oui, et ben vous êtes, vos pêchers sont attaqués par la moniliose, qui est un champignon qui est malheureusement de plus en plus présent en Bretagne. Alors il y a deux monilioses en fait, il y en a une pour les arbres à noyaux, une pour les arbres à pépins, mais les symptômes sont les mêmes. Et effectivement, ben c'est exactement ce que vous annoncez. Au fur et à mesure que le fruit fait son sucre, eh bien le champignon se développe sur le sucre et ça fait effectivement des cercles concentriques de petits points blancs sur fond marron. C'est pas très esthétique.
Pas très
et l'aboutissement de la chose, c'est que le fruit se retrouve tout momifié, tout dur, tout desséché. Alors la première chose à faire là tout de suite pour cette année, c'est d'enlever les fruits momifiés pour éviter, parce qu'ils sont source de recontamination. Donc bien les enlever et les brûler, hein, ou les mettre à la poubelle si vous voulez, hein, sachant qu'en général ils passent en incinération. Voilà. Donc ça permet d'éliminer les maladies et d'autre part, pour l'année prochaine, dès le printemps, alors c'est de bonne heure pour le pêcher, parce que le pêcher ça fleurit souvent fin février, début mars. Mm-hmm. Donc le plus tôt possible avant la floraison, vous appliquez un traitement à base d'huile essentielle de sarriette, comme j'ai déjà indiqué plusieurs fois à ce micro, et puis on attend la nouaison des fruits dont on vient de parler. Dès que les fruits sont noués, eh bien on fait l'éclaircie, et dès qu'on a fait l'éclaircie, on remet une couche de traitement aux huiles essentielles de sarriette, à l'huile essentielle de sarriette. Et puis après, toutes les 3-5 semaines, si vous faites régulièrement 5 semaines s'il fait beau, 3 semaines s'il fait moins beau, régulièrement, eh bien vous allez empêcher la maladie de se développer, et donc vous allez récupérer vos belles grosses pêches bien juteuses. La seule chose, c'est qu'il faut effectivement arrêter de traiter un mois avant la récolte pour pas qu'il y ait un petit bout de sarriette sur les pêches.
Sinon ça va pas être top ça. Mais c'est vrai qu'après ça permet d'avoir des bonnes pêches. Ce serait dommage en plus de pas pouvoir en profiter, pas de pouvoir faire des petites tartes ou je ne sais pas. Dominique, on vous souhaite une très belle journée dans le Morbihan. On espère que ces conseils seront utiles pour ensuite pouvoir profiter pleinement de votre arbre. 02 99 67 35 35. Je rappelle pour celles et ceux qui viendraient de nous rejoindre que notre expert jardin Philippe Munier a la main verte et vous donne de bons conseils ce dimanche de 9h à 10h.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Ah oui, vous avez vu, le petit monsieur a raison de répéter tout cela. Un souci avec vos plantes, vos fleurs, vos arbres fruitiers, 02 99 67 35 35. On aura d'ailleurs Madeleine d'ici quelques instants qui a des questions concernant son laurier rose. En attendant, voici Cyndi Lauper sur France Bleu Armorique.
In the middle.
Ça rappelle des souvenirs de l'année 1983. Cyndi Lauper, Girl Just Want to Have Fun, à l'instant sur France Bleu. Armorique et nous, on continue de jardiner d'ici quelques instants.
Bienvenue à San Francisco.
Du 14 au 22 septembre, la Foire Expo de Saint-Brieuc vous emmène dans la ville la plus cool des États-Unis, San Francisco.
Dans une ambiance côte ouest, retrouvez 300 exposants, maisons, gastronomie et habitat. Au programme, l'Expo événement, un espace dédié aux sports américains avec des animations et deux week-ends consacrés aux joueurs avec un tournoi e-sport FIFA 19 PS4 sur écran géant. Sans oublier le plus grand salon du camping-car de Bretagne avec les modèles 2020. L'art de vivre à l'américaine, du 14 au 22 septembre, c'est à la Foire Expo des Côtes d'Armor. Programme complet sur foiredesaintbrieuc.fr et Facebook.
Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez régulièrement votre maison, il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés. Ces produits génèrent des déchets chimiques. Surtout, ne les jetez pas à la poubelle. Samedi 14 septembre de 10h à 17h, EcoDDS organise pour vous une grande collecte des déchets chimiques. Le bon geste tri si vous n'allez pas à la déchetterie. Rapportez vos déchets chimiques sur le parking Leroy Merlin de Vannes à Tex. Liste des produits concernés et infos pratiques sur ecodds.com.
Esplanade. Esplanade du Général de Gaulle à Rennes. Ma radio, c'est France Bleu Armorique. Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et il vous répond si vous nous appelez au 02 99 67 35 35. C'est d'ailleurs Ambroise qui vous accueille. Vous lui expliquez en quelques mots, eh bien, le problème que vous avez dans votre jardin avec vos arbres, vos plantes, vos fleurs. Et puis ensuite, vous venez avec nous, comme Madeleine qui nous a rejoint, qui est à Saint-Brandan. Bonjour Madeleine.
Bonjour Philippe. J'appelle, là, j'ai un laurier rose qui a fini sa floraison. Faut-il le tailler ou comment le tailler si...
Ah, comment entretenir son laurier rose, Philippe?
Alors, déjà, première chose, il n'est pas sympa votre laurier rose parce que c'est un petit peu tôt pour arrêter de bosser. Mais bon, il y en a qui, voilà, qui sont moins courageux que d'autres. Donc la taille, elle est très légère. On ne supprime que la partie qui a fleuri et c'est tout. La vraie taille, celle qui favorise la fructification, vous la ferez l'an prochain, donc à la fin de l'hiver, vers le mois de mars. Et c'est cette taille-là qui favorisera la nouvelle floraison, en espérant qu'elle sera un peu plus longue, parce que normalement ils doivent pouvoir fleurir jusqu'au mois d'octobre, hein, s'ils sont bien courageux, et donc maintenant je vous dis, c'est juste une petite taille dite de propreté, on n'enlève que ce qui a fleuri et c'est tout.
Oui.
Donc voilà.
Et quel engrais lui apporter après l'hiver?
Alors, maintenant, vous pouvez lui apporter juste une fois ou deux, donc une fois maintenant au mois de septembre et une fois au mois d'octobre, et c'est tout, un engrais qui serait riche en... Enfin, un engrais, on va dire, plantes vertes, hein, moyen. Donc si vous avez un engrais pour plantes vertes à la maison, vous faites deux arrosages, donc un par mois, et ça suffira largement. Et par contre, pour l'année prochaine, à partir donc du mois d'avril, en avril et mai, pareil, un engrais plantes vertes, et en juin, un engrais riche, très riche en potasse, mais très pauvre en azote. Et après, plus l'engrais du tout, ça suffit.
Oui.
Et voilà. Et comme ça, après, vous aurez un magnifique laurier rose.
Et le protéger un petit peu pour l'hiver.
Et le protéger pour pas qu'il ait froid, parce que le laurier rose, ça vient quand même un petit peu des pays méditerranéens. Mm-hmm. Et ça n'aime pas le froid, et surtout, ça n'aime pas l'humidité.
Et voilà. Le mettre en pleine terre ou le garder en pot?
Alors tout dépend de l'endroit où vous le mettez, parce que en pleine terre en Bretagne c'est toujours un petit peu un challenge, parce que il faut vraiment le mettre dans un bon endroit où la terre soit suffisamment drainée, où il ne prenne pas les vents humides, où il y ait suffisamment de soleil, etc., etc. Donc c'est un peu un casse-tête. Quand on le met en pot, ben on peut le rentrer l'hiver tranquillement et puis le sortir l'été sur la terrasse. Donc il est plutôt au top de ses possibilités dans ce cas-là.
Et puis ensuite, eh ben il fleurira, il sera magnifique, le laurier rose. En plus, ça fait des belles fleurs, c'est très joli.
Oui,
c'est aussi pour ça, je sais que vous en avez envie d'en profiter, Madeleine.
Ouais,
merci à vous.
Je vous remercie, Philippe.
Merci à vous. Beaucoup. À très bientôt, Madeleine.
Oui,
au revoir.
Bientôt.
On va accueillir tout de suite Gilbert qui est à Auray. Bonjour, Gilbert.
Oui, bonjour, messieurs.
Alors,
bonne journée à vous.
C'est gentil, merci. Je vous laisse poser votre question à Philippe.
Alors, ma question, elle est celle-ci. J'ai Oh, mince.
Si vous voulez, je la pose à votre place. Je sais que vous avez des soucis avec vos pivoines, c'est ça?
Oui, aussi. Mes pivoines, elles ont, depuis plus d'une trentaine d'années, elles ont très bien fleuri. Et depuis 2 ans, au lieu d'avoir une quinzaine de têtes, je n'ai plus que 2 têtes.
Tiens.
2-3 têtes, pas plus.
Alors, ce serait dû à quoi?
Ben justement.
Alors,
elles n'ont pas déménagé. Elles sont toujours restées. Elles ont le soleil le matin. Et puis après,
Alors,
ça peut être dû à deux causes, à mon avis, c'est même les deux en même temps. La première cause, c'est qu'elles ont une quinzaine d'années, donc elles sont restées longtemps au même endroit, sachant que les pivoines peuvent rester longtemps au même endroit, mais il faut quand même pas exagérer. Si elles sont très généreuses en floraison, eh bien, elles ont aussi besoin de temps en temps d'être dédoublées, hein, parce que effectivement, la touffe se concentre de plus en plus, et du coup, les racines se gênent mutuellement, ce qui fait que la sève arrive moins facilement et ça aide moins la plante à se développer. Et puis la deuxième raison aussi, c'est que bien souvent, même si elles sont très généreuses, on oublie de leur donner à manger et du coup, d'année en année, le sol s'épuise et donc elles récupèrent dans le sol de moins en moins de choses à manger et donc elles sont de moins en moins généreuses, ce qui est un petit peu logique. Donc on est encore dans les temps pour pouvoir les dédoubler.
Hein. Donc, je peux les dédoubler.
Dédoublement, c'est maintenant, c'est grosso modo entre le 15 août et le 15 octobre. Donc, on est en plein
dedans. C'est la bonne période.
Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les dédoubler en faisant attention à garder le maximum de racines. Et c'est des grosses racines parce qu'elles se gorgent de nutriments. Donc, si vous voulez qu'elles refleurissent l'année prochaine, il faut garder un maximum de racines, ce qui oblige à faire un grand trou, mais ce n'est pas grave. Du coup, dans le grand trou, ça permettra d'ameublir le sol et de pouvoir les replanter facilement. Et puis vous en faites profiter, soit vous refaites d'autres plantations, soit vous en faites profiter vos voisins, vos amis, la famille, qui vous voulez. Et ce qu'il faut faire très attention au moment de la replantation, c'est que les yeux, ils sont bien visibles en ce moment, c'est des jolis yeux à ras du sol presque, et qui sont rouge laqué, un très joli rouge laqué. Ces yeux là il faut absolument qu'ils soient au-dessus du sol, mais pas au moment où vous les plantez, mais quand le sol sera réinstallé. Or, quand on plante, en général, la plante, elle a tendance avec les arrosages, à descendre dans le sol. Donc, il faut vraiment les mettre à 4-5 cm au-dessus du sol, et après, par le tassement, ils vont arriver juste à ras du sol, et dans ces conditions-là, les yeux, la plante va continuer à fleurir. Si les yeux sont en dessous du sol, la plante fera des très belles feuilles vertes, mais elle ne fera pas de fleurs.
D'accord. Voilà les conseils.
Une autre question simplement.
Rapidement, Gilbert.
J'ai trouvé le nom du tuya que j'ai sculpté. Mm-hmm. Et je voulais savoir à quel moment qu'on pouvait faire
des boutures,
je pense, ouais, de sapin.
Alors les boutures, il y a plusieurs périodes et je n'y arrive pas.
Les boutures, alors là, boutures de conifères, on est en plein dedans. C'est le meilleur mois pour les boutures de conifères, c'est le mois de septembre. Donc allons-y gaiement. C'est maintenant.
On l'aura compris. Pour les pivoines, le dédoublement, c'est maintenant. Et puis pour les boutures de sapin, c'est également maintenant. On dirait des slogans politiques. Voilà.
Je dirais surtout que c'est une liste de travaux à faire.
Exactement. Vous avez du travail, Gilbert. Bon courage à Auray.
Merci beaucoup. Très
bonne journée. Merci à vous également. Beau week-end, bonne fin de week-end. Daniel est avec nous a rejoint à Dinger. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Daniel, je vous laisse poser votre question à Philippe.
Oui, Philippe, voilà, je souhaiterais refaire un peu mon potager parce que la terre commence à fatiguer un petit peu. Je souhaiterais mettre du fumier de cheval et également du carton et de la paille, tout ça. Mais alors le problème, c'est que je ne sais pas trop dans quel ordre il faut que je mette ça. Est-ce que je peux mettre les trois ou est-ce que c'est une hérésie? Et à quel moment il faut que je fasse ça? Voilà.
Faire une sorte de paillage, qu'est-ce qu'on doit faire dans quel ordre?
Voilà.
Alors Philippe.
Alors, l'idéal, le crottin de cheval ou le fumier de cheval, ce qui me concerne, je préfère tout composter d'abord et après d'utiliser mon compost. Pourquoi ? Parce que le compost, en fait, il est bien décomposé, donc il va être directement utilisé par les plantes. Mais dans l'hypothèse où vous faites, par exemple, le mois prochain, hein, aux alentours du 15 octobre, le paillage carton, la mise en couche, on va dire, les lasagnes, ça va être le fumier de cheval, si vous en avez, donc de frais, le fumier de cheval sur le sol, puis le carton, puis les feuilles mortes.
D'accord, c'est dans ce sens-là.
Voilà, sachant que l'intérêt, c'est que pour dégrader le carton et les feuilles qui sont très riches en carbone, le sol a besoin d'azote, donc vous lui apportez par le fumier de l'azote, et derrière, les bactéries, les champignons, tout le petit monde du sol va se développer et va consommer tranquillement pendant l'hiver le carton et les feuilles mortes. Donc au printemps, vous allez arriver sur un sol qui sera redevenu presque nu, mais qui sera enrichi en surface d'un compost magnifique. Et d'un humus magnifique.
Ah, ce sera bien.
Okay, et puis,
Oui, Daniel.
Je peux remettre des petites branches mortes par-dessus, après du broyat de branches que je peux remettre en dernier.
Ah oui, tout à fait, oui, sans problème. Tout ça, c'est du carbone, donc, et le sol a beaucoup plus besoin de carbone que d'azote. Donc allez-y, je dirais, sans modération.
On aura retenu les couches de lasagne, comme vous disiez, fumier, carton, feuilles mortes, et puis ensuite, eh bien, les petits branchages si vous souhaitez. Voilà pour.
On peut faire deux couches, même, merci.
On peut faire deux couches aussi, bah, tiens.
Si on veut s'amuser, on peut faire deux étagements comme
après,
ça.
Après, ça fait quand même un gros plat, quand même.
Ouais, mais les Américains, par exemple, cultivent sur des pistes d'atterrissage des anciennes bases aériennes.
Oui.
Donc, c'est du béton. Et bien, dessus, ils recréent un sol avec des lasagnes comme ça. Donc,
d'accord.
Ils mettent 3, 4, 5, 6 couches et ils cultivent dans ces couches. Et à la longue, bah, ils arrivent à créer un sol vraiment des hauteurs de terre. Il y en a qui font ça depuis 10-15 ans. Et bien, ils ont créé plus d'un mètre de terre donc, sur les pistes et ils cultivent leurs légumes comme ça.
Et ensuite, ils ont un sol riche. Bah, c'est ça qui est bien. Philippe, ce qui est bien aussi, c'est que vous restez encore avec nous pendant une petite demi-heure. On va continuer.
Ah bah, c'est prévu comme ça.
Tout à fait. On va continuer de répondre à vos questions. 02 99 67 35 si vous avez eh bien le moindre souci concernant votre jardin.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et en attendant, voici le nouveau Florent Pagny dans la playlist de France Bleu Armorique. Ça s'appelle C'est une chanson et on adore à 9h32.
Faire oublier une seconde la douleur. Si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur, alors il faut chanter. Alors il faut chanter. Chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix, alors il faut chanter. Alors il faut chanter. Se présenter au parloir. Si sans appeler à la haine, elle sait allumer une flamme dans le noir. Alors il faut chanter. Alors il faut chanter.
Aime la vie, c'est le nom du dernier album de Florent Pagny dans lequel vous retrouvez ce titre. Si une chanson, Aime la vie, un album France Bleu.
Chantal Latsou, quel est le secret de votre bonne humeur?
Chez moi, c'est naturel. Je suis parfait, je n'y peux rien.
C'est vrai?
Non. En vrai, quand j'ai un coup de mou, je vais dans ma véranda à Kenna et là, j'oublie tout. Au revoir la grisaille. Ma véranda à Kenna, c'est mon oasis de bonheur. Ma bulle de douceur. Mais ne le répétez pas, hein. On va me prendre pour une cinglée. À Kenna, la reine des vérandas et des pergolas.
Pour votre nouvelle cuisine, choisissez la cuisine mal fichue. Placard trop haut, évier trop petit, plan de travail mal éclairé, tout y est parfaitement mal pensé.
Sinon, chez La Paire, la qualité, ça ne coûte pas plus cher. Pendant la rentrée des tout petits prix jusqu'au 16 septembre, la pose de votre cuisine par des professionnels La Paire est à 1 euro seulement. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
France Bleu Armorique, au cœur de la Bretagne. Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et ce, comme chaque dimanche, 02 99 67 35 35, le numéro de téléphone à composer si vous avez des questions à poser à Philippe ce matin, comme Jean qui est à Étable-sur-Mer. Bonjour Jean.
Bonjour.
Jean, vous avez des questions concernant les citrons. Expliquez-nous.
Les citronniers. J'ai deux citronniers en pleine terre. Mmh. Un jaune et un vert.
Oui.
Le jaune a fleuri. Il y a quelques citrons de formés.
Oui.
Mais le vert, il fait pas mal de feuilles. Et
il n'y a rien.
Il n'a pas fait de fleurs.
Il n'a rien fait. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire?
Voilà, ils sont. Et en ce moment, ils n'arrêtent pas de pousser l'un et l'autre. Il y a plein de nouvelles branches et je voulais savoir aussi s'il fallait les tailler.
Alors, Philippe, que faut-il faire?
Alors, déjà, première chose, ils sont plantés en pleine terre depuis combien de temps l'un comme l'autre?
Le jaune, ça fait au moins 5 ans.
Mmh. Ouais.
Et puis le vert, l'année d'après, ça D'accord. fait 4 ans.
Ouais. Ok. Parce qu'il faut savoir quand même que les citrons verts, donc ce qu'on appelle les limes, sont plus exigeants en chaleur que les citrons jaunes. Hein, je pense que le petit écart de productivité, c'est un manque de chaleur. Donc ce qu'il faut vraiment faire très très attention, c'est surtout l'hiver, à ce qu'il n'ait pas trop froid. Donc bien les protéger, et particulièrement la lime, de manière à ce qu'il ne souffre pas du froid, parce que sinon son redémarrage au printemps est très long, très difficile, et du coup il n'a pas le temps de faire des fleurs que déjà l'automne suivant arrive. Mm-hmm. Sachant que quand tout va bien, un citronnier qui soit vert ou jaune devrait pouvoir être un arbre des quatre saisons. Alors les citrons verts un petit peu moins, mais normalement on doit pouvoir avoir des fruits en été, en automne et au début de l'hiver. Donc c'est vraiment une question de température d'une part, donc une bonne protection hivernale, et puis d'autre part aussi une bonne nutrition, hein, donc bien les alimenter, sachant que les citronniers sont assez gourmands, et gourmands surtout de potasse, hein, donc faire très attention à ce qu'ils aient un engrais spécial agrumes, bien riche en potasse.
L'engrais agrumes, ça va bien, ça. Hein,
oui, oui, bah oui, c'est. Donc s'il est suffisamment riche en potasse, on en amène que d'avril à octobre. Hein. Faut surtout pas en mettre après. Si la quantité est bonne, s'ils ont suffisamment de chaleur, normalement, ça doit démarrer. Alors sachant aussi, vous disiez qu'ils étaient en pleine croissance en ce moment, et c'est la deuxième croissance, hein, c'est tout à fait logique. Et effectivement. Ça vaut le coup, dans la mesure où normalement un citronnier fructifie toute l'année, il est aussi à tailler légèrement, ce sont des détails de fructification permanente, mais toute l'année. C'est-à-dire que tout ce qui pousse à l'intérieur, tout ce qu'on appelle couramment des gourmands, il faut les supprimer au fur et à mesure, je dirais presque chaque jour quand vous allez le voir, ou chaque semaine quand vous l'arrosez, si besoin est, et bien, parce qu'il ne faut pas oublier que les agrumes doivent avoir un sol frais. frais en permanence. Hein. Il ne faut surtout pas que le sol dessèche. Donc, il faut les arroser régulièrement et bien les pailler. Donc, vérifier le paillage régulièrement. Donc, à ce moment-là, on va voir, on écarte un peu les branches. Tiens, ici, il y a un gourmand. Ici, il y a une branche qui pousse à l'intérieur, qui bloque l'aération et la lumière à l'intérieur. Tac, si je les prends suffisamment jeunes, je peux les enlever avec mon ongle. C'est ce qu'on appelle pincer. Si je m'y suis pris un peu tard, j'ai un petit sécateur et clac, je supprime la plante tout de suite. C'est vraiment de la taille qui se fait en continu parce que normalement la production doit être en continu.
D'accord. Donc Jean, ça va demander du travail en continu sur l'année, ces deux citronniers. Mais après, c'est vrai que c'est sympa d'avoir les citrons jaunes et puis les limes, ça c'est pas mal pour faire des virgin mojito par exemple, ça donne un petit goût d'été.
Voilà, avec pour modération, évidemment.
C'est pour ça que j'ai dit virgin mojito, Philippe, bien sûr. Évidemment. Merci Jean, vous souhaite une très belle journée du côté des tables sur mer. Au direction le Morbihan, en tout cas on est dans le Morbihan. Avec Monique maintenant qui est avec nous. Bonjour Monique.
Bonjour messieurs, j'ai une question concernant les iris.
Oui.
J'ai des iris de collection que je n'ai pas dédoublées. J'en ai qui sont mal plantées, pas au bon endroit. Et je voulais savoir si on pouvait encore faire cette opération, qui normalement se fait au mois de juillet. Mmh. Et j'en ai un qui est en fleur.
D'accord.
En septembre. Enfin,
donc,
en septembre.
En septembre.
Bizarre.
Que faut-il faire et pourquoi est-il en fleur?
Voilà.
Alors, on est vraiment limite, mais c'est, je pense que c'est encore jouable. Hein. Jusqu'à la fin du mois, c'est encore jouable. Donc, dépêchez-vous de le faire. Parce que sinon, plus ils vont être longs à s'enraciner, à être mis en place, dédoublés, et plus ils fleuriront tard l'année prochaine. Ça, c'est la première chose. Vous faites bien attention donc, à bien préparer le sol. Un sol très drainant, c'est très important. Très bien exposé au soleil, c'est très important aussi. Et pas trop pourvu en azote. Là aussi, pour fleurir, il faut plutôt de la potasse, mais pas trop d'azote. Donc, si on met du compost, on met aussi un tout petit peu de cendre de bois à l'intérieur, parce que la cendre de bois, c'est riche en potasse, et que ça va, c'est la potasse qui permet la floraison. Et maintenant, ce qui concerne l'iris qui fleurit maintenant, si c'est une variété que vous avez achetée récemment, de plus en plus de nouvelles variétés d'iris sont dites remontantes. Donc, elles font une première floraison.
C'est des
variétés récentes, 3-4 ans. Hein, les variétés remontantes, les premières ont une petite vingtaine d'années.
C'est la première fois que je savais pas qu'il y en avait des remontants.
Voilà. C'est super, justement, parce que ça fleurit deux fois par an, c'est génial.
Écoutez, je ne savais pas ça. Est-ce qu'il faut couper les feuilles de ceux qui sont en place? Est-ce qu'on doit diminuer les feuilles ou pas?
Non. La diminution des feuilles, quand on replante, c'est juste pour diminuer l'évaporation, pour que la plante ne souffre pas trop de manque d'eau et puisse s'installer correctement et installer correctement son système racinaire. Mais sur des plantes en place, vous n'enlevez que les feuilles fanées.
D'accord. Voilà.
Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce dimanche, Monique? On enfile les gants et on se met au jardin pour replanter ces iris. Bon courage et puis belle journée à vous.
Beaucoup.
À bientôt, merci, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Gérard nous a rejoint à 9h44. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour Philippe.
Alors, Gérard, je vous laisse poser votre question.
Oui, alors ça concerne la glycine.
Ah.
Alors, à quel moment faut-il la tailler? Combien de fois par an, s'il y a lieu? Et puis, à quelle longueur, si on peut dire, par rapport à la tige principale?
Bah oui, parce que la glycine, ça peut aller vite, Philippe. On peut se faire vite envahir.
Très, très vite.
Alors, il y a possibilité sur la glycine de faire deux tailles. La première, elle a lieu très tôt en saison. C'est une taille qu'il faut essayer de faire aux alentours du 15 janvier. Et là, on est très sévère, c'est-à-dire que on revient sur la tige principale. On taille à deux yeux sur la tige principale. Hein. Donc tout ce qui a passé dans l'année, on le ramène à deux yeux. Ça, c'est la première taille. Et ensuite, après la première floraison, vous faites une taille de propreté qui va donc vous allez enlever tout ce qui a fleuri, tout le bois qui a fleuri, donc la fleur fanée, mais aussi le bois qui a porté la fleur, ce qui va provoquer une remontée et vous permettre d'avoir une deuxième floraison qui, normalement, est en cours en ce moment. Hein, grosso modo, c'est une floraison en août-septembre, suivant les variétés et suivant les couleurs et suivant les orientations aussi. Mais ça permet, cette première taille permet de stimuler la plante pour faire une deuxième floraison estivale Et puis après, bah voilà, on repart sur la première taille sévère de mois de janvier.
Du mois de janvier. Voilà, Gérard, pour ensuite avoir une belle glycine et qui n'aille pas non plus partout. Après, il faut aussi un peu la discipliner.
Un petit peu, ouais.
Voilà.
D'accord.
Gérard, bonne journée.
Bien, merci beaucoup.
À très bientôt. Merci.
Merci, bonne journée.
Dans quelques instants, on va avoir les dernières questions quand même, puisqu'il est déjà 9h46. Philippe qui continue de répondre jusqu'à 10h aux questions concernant le jardin.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Machine avec Maldon, nettoyer, balayer, surtout jardiner ce dimanche.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Nous sommes à Saint-Brieuc avec Daniel qui est à nos côtés. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Daniel, alors expliquez-nous votre souci et votre question.
Voilà, j'ai un cassissier, c'est comme ça qu'on l'appelle, je pense, cassissier, le long d'un mur sur une vingtaine de mètres de longueur. Et, par contre, il est haut, puis est-ce que je peux le couper, comment le couper et quand le couper?
Et quand le couper? Qui que quoi donc où? Philippe.
Alors, la taille des cassis, on la fait plutôt en fin d'hiver. Hein. C'est plutôt une taille qu'on va faire en février-mars. Parce que si vous la faites maintenant, vous risquez de stimuler le cassis, qu'il reprenne, reparte en végétation. Et du coup, ben, s'il y a un petit coup de froid, eh ben, c'est tout perdu. Quoi. Donc, on le laisse tranquillement se reposer maintenant. Et puis, on peut faire des tailles sévères. Hein. Il faut d'ailleurs tailler sévère, parce que quand on taille sévère, donc en général, ce qu'on fait pour le cassis, comme pour la groseille, hein, je rappelle que en fait le cassis c'est une groseille noire, hein, donc c'est la même taille, c'est des arbres qui sont très très proches, des arbustes qui sont très très proches, et on enlève un tiers du vieux bois tous les ans. Ce qui fait que, en permanence, on n'a jamais de bois de plus de 9 ans, et de plus de 3 ans, pardon. Et donc, en permanence, on a du jeune bois en renouvellement, ce qui permet d'avoir toujours un plant, enfin, ou des plants qui sont bien prolifiques et qui sont bien jeunes, bien vigoureux. Et ça permet d'avoir des productions régulières. Donc, il ne faut pas avoir peur de taper dedans au printemps, d'enlever bien un tiers du vieux bois. Et vous verrez, derrière, d'une part, il va être un petit peu moins haut, et d'autre part, il sera plus productif.
Voilà, vous attendez, comme disait Philippe, peut-être un peu le printemps, et puis on n'hésite pas à tailler, et puis après, les cassis, c'est toujours bon à manger. Voilà, Daniel, pour vous.
Bonne journée de cassis, cassis rhubarbe, moi j'adore.
Ah, c'est pas mal, ça, ouais, je suis d'accord avec vous. À bientôt, Daniel. Merci, Daniel. Merci, c'est gentil. On a entendu de très loin, il devait avoir un petit souci avec le téléphone. Accueillons Françoise, qui est à nos côtés. Bonjour, Françoise.
Bonjour, messieurs. Voilà, ma question est la suivante. J'ai un protéa qui se trouve en pleine terre, qui a fleuri. Maintenant, les fleurs sont refermées, elles se dessèchent. Et je voulais savoir à quel moment s'il faut les couper, et sur quelle hauteur, enfin, la procédure, quoi.
D'accord. Voilà. Alors moi, j'ai une question quand même à poser aussi à Philippe. Qu'est-ce qu'un protéa?
Ah, alors les protées, ce sont les arbres et les arbustes emblématiques de l'Afrique du Sud, en tout cas de l'hémisphère sud. C'est de toute façon l'emblème de l'Afrique du Sud. Ce sont vraiment des plantes assez extraordinaires. Hein. Ça peut être donc carrément des arbres, mais c'est souvent des arbustes. Ça peut même être des arbustes très nains. Hein. Il y a une protée qui fleurit à peut-être 10, je sais même pas si elle est à 10 cm du sol, et ça fait des tapis de fleurs. C'est absolument extraordinaire au moment de la floraison. Donc c'est vraiment une famille de plantes sublimes, faut reconnaître, sublimes et très très étranges. Hein. C'est vraiment des fleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est ce qui en fait leur intérêt. C'est des plantes qui sont assez difficiles à tenir dans l'hémisphère nord, mais c'est vrai que la Bretagne a l'avantage d'avoir un climat qui est suffisamment comment dirais-je doux, humide, etc. pour permettre à ces plantes de se développer à peu près correctement. Donc quand une protéa fleurit, effectivement, bah, elle se dessèche, et moi je conseille plutôt de la couper le plus tôt possible, hein, parce que elle va essayer de faire des graines. C'est toujours pareil, elle va essayer de faire des graines, et les graines, ça crève les plantes, hein, ça les fatigue. Donc plutôt que de les fatiguer, autant qu'elles passent leur énergie à préparer des fleurs pour l'année prochaine. Donc dès que la plante est défleurie et commence à se refermer, hop, on la supprime, et on supprime la plante, la fleur et le bois qui a porté la fleur, donc de manière à provoquer l'émergence de nouveaux rameaux qui seront porteurs de nouvelles fleurs l'année prochaine. Donc voilà.
Ok. C'est
un petit peu toujours le même principe, mais ça c'est effectivement faites-le maintenant, ça lui fera du bien.
Et puis après.
D'accord. Faut donc que je coupe carrément la tige sur laquelle ça a fleuri.
Absolument.
Voilà.
D'accord. Et bon, l'hiver, comme je ne suis pas là, je la protège d'un voile hivernal. Mais est-ce que je dois mettre quelque chose au pied?
Alors, de toute façon, vous avez intérêt à lui mettre un bon paillage, ça c'est sûr, et à bien protéger, parce qu'effectivement, bon, vous êtes sûr, j'ai pas...
Sur Moëlan.
Sur Moëlan,
ah, plutôt. Donc effectivement, ouais. Donc effectivement, il fait pas trop froid l'hiver, donc mettez-lui un bon paillage au pied, et puis effectivement, vous avez intérêt, le voile de forçage, à le mettre sur une armature de manière à ce qu'il touche pas la plante, parce que sinon ça risque de créer des...
Parce que mon mari a fait, il m'a fait quelque chose pour protéger.
Eh ben super.
Il est formidable, voilà, super, votre mari.
Une belle structure, génial, là-dessus, voilà. Et dessus, on met un voile de forçage et c'est génial. Vous avez raison.
Mais c'est vrai que c'est une fleur magnifique. Hein. Vraiment, j'ai de la chance.
C'est vrai. Et puis, ça se plaît bien d'ailleurs, ça, Philippe, en Bretagne.
On a vraiment des endroits en Bretagne, un peu partout. Hein, en fait, surtout sur la Bretagne littorale, hein, parce qu'il faut quand même la douceur océanique est très importante pour les protées. Et effectivement, il y a des jardins de privés ou des jardins exotiques. Hein, mm-hmm. Donc, je pense au jardin exotique de Roscoff, jardin exotique de l'île de Bas, sur lesquels on trouve des protées. Mais il y a aussi beaucoup de particuliers qui arrivent à avoir des très, très, très belles productions de fleurs. Et c'est vraiment, c'est magnifique.
Encore une fois, on a le climat idéal en Bretagne.
Absolument.
Bien évidemment, c'est pas vous qui allez dire le contraire. Françoise, on vous souhaite une très belle journée.
Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie pour votre émission qui est vraiment très, très intéressante. Et je vous souhaite une excellente journée.
Merci, Françoise, de même. Et puis, vous embrassez votre mari, en tout cas, qui a fait du bon travail, est-ce qu'on a cru comprendre.
Ça fait 50 ans qu'on est ensemble, alors je m'en prépare.
Ça risque de durer, surtout si vous avez des magnifiques protéas. Il va être content, monsieur. Philippe, avant de se laisser, je crois que vous avez un dernier petit coup de cœur, en tout cas, un petit coup de cœur, comme à chaque fois, à nous présenter peut-être un livre, il me semble.
Oui, un petit bouquin que j'ai bien aimé parce que justement, quand on parle de potager, on parle trop souvent des feuilles, on parle des racines, on parle des fruits, et puis on oublie un truc, on oublie les fleurs. Et les fleurs au potager, ben, c'est quand même vachement important parce que d'une part, c'est ce qui fait le fruit, je vous rappelle quand même au passage, et puis d'autre part, parce que ça se mange.
D'accord. Hein,
et puis parce que les fleurs, ça attire les insectes pollinisateurs, donc ça permet de mettre de la biodiversité au jardin. Alors, j'ai trouvé ce petit bouquin d'Hervé Guirec et de Jean-Yves Carouas qui s'appelle Fleurs et légumes du potager, mais c'est surtout fleurs, qui aux éditions Locus Solus, et nous propose donc tous les légumes du potager, mais versus fleurs. Est-ce que la fleur est comestible? Comment est-ce qu'on va la manger? Il nous explique tout ça en nous mettant à chaque fois le nom en breton, parce que ce sont deux écrivains bretons, bretonnants. Donc comme ça, on apprend le nom des légumes en breton et pourquoi pas. Et vraiment, ça nous permet d'imaginer une salade de fleurs accompagnée de quelques légumes, de quelques feuilles de salade tout court, et puis un peu de roquette, un truc plein de salade. Plein de couleurs, et donc c'est vraiment un livre de saveurs et de couleurs que je vous conseille. 12,90 aux éditions Locus Solus, c'est vraiment pas la peine de s'en priver pour vraiment un petit bouquin je vais vous dire combien exactement, 143 pages.
Voilà,
donc 143 pages de bonheur et surtout de fleurs.
De bonheur, de fleurs partout.
Alors je vous rappelle, Hervé Guirec, Jean-Yves Carouas, Fleurs et légumes du potager, édition Locus Solus.
C'est
des éditions bretonnes, évidemment.
Exactement, comme vous le disiez, on peut apprendre en plus le breton par la même occasion. Voilà. Merci encore une fois, Philippe, et puis on vous retrouve dimanche prochain à la même
heure. Avec grand plaisir.
À partir de 9h, de 9h à 10h, les experts jardins, vous pourrez poser toutes vos questions à Philippe dimanche prochain au 02 99 67 35 35. Bonne journée.
Une championne du monde de bridge qui est aussi une gameuse, on en a tout vu.
Pourquoi ?
Avoue que le jeu vidéo, c'est plus animé que le bridge.
On voit que tu n'as jamais mis les pieds dans un club de bridge. Côté animation, tu serais surprise. Côté concentration, le bridge, c'est comme le jeu vidéo. Et c'est tout aussi excitant. Et voilà, t'as encore perdu.
Vanessa Reyes, 45 ans, est championne du monde de bridge. Et elle a raison, le bridge, c'est pour tout le monde. Découvrez la FFB Bridge Box, un coffret d'initiation pour jouer tout de suite, des cours, la licence offerte et plus encore. Plus d'infos sur ffbridge.fr. Le bridge, sport de l'esprit, esprit ouvert.
Alors, Chantal Latsou, quel est le secret de votre bonne humeur?
Chez moi, c'est naturel. Je suis parfait, je n'y peux rien.
C'est vrai?
Non. En vrai, quand j'ai un coup de mou, je vais dans ma véranda Akena et là, j'oublie tout. Au revoir la grisaille. Ma véranda Akena, c'est mon oasis de bonheur. Ma bulle de douceur. Mais ne le répétez pas, hein. On va me prendre pour une cinglée. Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
Vous avez plus de 18 ans? Et vous êtes en tutelle ou curatelle? Vos droits changent. Vous êtes libre de voter aux élections. Vous pouvez aussi vous marier ou vous pacser avec la personne que vous aimez, simplement en informant votre tuteur ou curateur. Parlez-en à vos proches. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur justice.fr.
Très bon dimanche à l'écoute de France Bleu Armorique. Il est 10h. Le journal, Céline Guettaz, et les Bleus rassurés après leur large victoire hier soir face à l'Albanie.
Une victoire 4-1 pour ce match de qualif pour l'Euro 2020. Une victoire grâce à un doublé de Coman. Grâce